Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Morts, dont 10 civils, c'est le bilan d'une attaque des ADF à Mambelenga. La société civile locale et l'ONG CRDH déplorent également l'enlèvement d'une dizaine de personnes par ce groupe armé et la destruction d'une structure sanitaire. La vaccination contre la Covid-19 débute le 12 mars et la priorité sera accordée au personnel de santé, les personnes présentant d'autres maladies à risque et les personnes âgées de plus de 55 ans. Cette précision est du directeur adjoint du programme élargi aux vaccins que vous écouterez dans ce journal. Maître Georges Bokondou de Sarwa RDC est notre invité. Il revient sur la loi sur les hydrocarbures promulguée en 2015 mais qui n'a pas été suffisamment vulgarisée. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord cette information, la représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, a indiqué jeudi que la MONUSCO va appuyer la vision du chef de l'État pour la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de l'audience avec la ministre d'État, Marie Ntoumba Nzenza, dans son cabinet, selon Bintou Keïta, la stabilité à l'est de la RDC constitue une priorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour laquelle la MONUSCO promet de l'appuyer dans cette vision. La MONUSCO est là pour appuyer les efforts de l'autorité nationale. Ainsi, ensemble, nous devons arriver à faire en sorte que la zone de l'est de la RDC soit en paix et stabilisée, a déclaré Bintou Keïta auprès de la presse du ministère des Affaires étrangères. En Ituri, le bilan définitif de la dernière attaque mardi des rebelles ADF au village de Mambelenga, au sud du territoire d'Irumu, est de 14 morts, dont 10 civils. La société civile locale et l'ONG CRDH déplorent également l'enlèvement d'une dizaine de personnes par ce groupe armé et la destruction d'une structure sanitaire. Ces structures signalent que les FARDC ont repoussé ces rebelles qui sont en errance dans la zone. Le point avec Ezekiel Moussalia.
Le premier bilan de cette attaque des rebelles ADF qui s'est produite mardi vers 14h au marché Mambelenga était de 6 morts dont 3 civils et 3 hommes armés qui ont été lynchés par la population. Selon des sources concordantes, 8 autres corps ont été découverts mercredi par la population. Au total, 14 personnes ont été tuées lors de cette attaque. Parmi les victimes, il y a des femmes et des enfants, affirme le coordonnateur de l'ONG CRDH. Du côté de l'ennemi, 4 miliciens ont été neutralisés et plusieurs munitions de guerre récupérées par les forces loyalistes, ajoute la même source. L'ONG CRDH et l'association des étudiants et élèves ressortissants d'Oicha et Irumu signalent également des dégâts matériels importants. Il s'agit des pillages et de l'incendie d'une structure sanitaire ainsi que de quelques maisons et boutiques dans cette entité. Pour le moment, un calme s'observe dans ces milieux après les opérations militaires pour traquer ces rebelles qui sont dispersés dans la zone. Signalons que c'est la 4e attaque des rebelles ADF depuis le début de cette année dans la chefferie de Walese Vankoutou. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, se dit choquée par les massacres à répétition des civils au sud du territoire d'Irumu. Le président de cette structure, qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri, précise qu'il ne se passe pas deux jours sans compter des morts en chefferie de Walese Vankoutou, dont les derniers cas ont été enregistrés dans les localités de Mambelenga et Ndalia. Janvier Bin Ekwala demande à la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, de s'impliquer pour le maintien de la paix dans la province de l'Ituri. Janvier Bin Ekwala s'est exprimé au micro de Charlie Omba.
Nous, notre grand-parent, c'est l'État congolais et aussi la communauté internationale qui est représentée ici par la MONUSCO. Que fait la MONUSCO par rapport à toute cette théorie qui se passe dans cette contrée de Walese Vankoutou? Voilà un peu notre inquiétude. À la MONUSCO, nous demandons toujours de sécuriser la population. La MONUSCO, c'est le maintien de la paix. Et quand est-ce qu'ils vont maintenir la paix en Ituri? La MONUSCO est déjà plus de 20 ans dans la province de l'Ituri. Jusqu'à présent, les gens continuent à mourir. Et ce que nous demandons aux nouvelles représentants de la MONUSCO en RDC, vraiment de prendre ses responsabilités, d'éradiquer les groupes armés, de donner vraiment la paix que la MONUSCO chaque fois est en train de prêcher, que le métier de la paix, métier de la paix. Or, nous, les Ituriens, nous ne vivons pas cette paix, raison pour laquelle nous recommandons à la MONUSCO de prendre ses responsabilités, à ses troupes, de sécuriser la population congolaise.
En territoire de Massissi, environ 375 ménages ont été déplacés pour y bénéficier d'un autre site d'hébergement. Ces derniers ont été chassés d'un l'ancien camp de Bouchani qui a été démantelé il y a 2 semaines par les jeunes en colère du village Kaoto. Cela a été décidé à l'issue d'une rencontre qui a réuni mardi dernier à Massissi Centre l'autorité territoriale, quelques organisations humanitaires, les autorités locales ainsi que la société civile. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Au cours de cette rencontre, il a été demandé au chef du village Kaoutou de travailler en synergie avec les chefs de secteur de Osobanyungu, la société civile ainsi que le comité des déplacés afin d'identifier les déplacés qui, jadis, vivaient dans les camps de Bouchani situés aux alentours de Diabiondo. C'est enfin de voir comment venir en aide ces déplacés qui vivent aujourd'hui dans des familles d'accueil à Diabiondo et qui traversent des moments difficiles. À titre de rappel, c'est depuis le 18 février dernier que les jeunes du village Kaoutou, en colère, ont démantelé les camps de Bouchani après l'incursion des hommes armés dans leur village en date du 11 février dernier. Ces hors-la-loi ont pillé dans 3 habitations où ils ont emporté de l'argent, des téléphones, des panneaux solaires et des batteries. Le lendemain, les jeunes les ont poursuivis dans la forêt où ils auraient attrapé 2 présumés bandits. Un a été tué tandis que l'autre a été remis à la police, indique notre source. La même source ajoute que les jeunes du village pensent que certains bandits armés se cacheraient dans ces camps pour insécuriser les autochtones. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Direction Boutembo, 1164 déplacés internes ont été admis dans des écoles de la ville de Boutembo à travers ces 2 sous-divisions des Lepesté. Ces chiffres ont été livrés à Radio Okapi par Katsuva Vavugave James et Muindo Nguka Baudouin, respectivement sous-provède des sous-divisions Boutembo 1 et 2. D'après ces autorités scolaires, ces élèves sont venus pour la plupart de la région de Beni. Il y a également ceux qui sont venus de la province de l'Ituri et d'autres du territoire de Rutshuru, fouillant différentes atrocités. Nguka Baudouin, sous-prophète de Boutembo 2, explique au micro d'Alicia Kapisa.
Ils viennent soit avec leurs tuteurs, soit accompagnés de leurs parents, soit avec leurs proches de famille. Alors quand ils nous arrivent ici, nous leur livrons un petit document qu'on appelle recommandation d'inscription pour faciliter au moins leur inscription au niveau de l'école, mais aussi qui peut servir comme premier document dans les dossiers de l'élève. Le document n'est pas monnayé, c'est un document qui est offert à tous les enfants et aux parents qui se présentent pour leur permettre d'avoir une inscription facile dans l'école où l'enfant ou les parents ont choisi. Pour ce qui est des frais scolaires, surtout pour ceux-là qui viennent dans les écoles primaires, nous les orientons surtout dans les écoles publiques où nous avons, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement. Parce que dans les écoles privées, ils seront soumis à des frais. Mais ceux-là qui viennent du secondaire, nous les orientons aussi dans les écoles tout en demandant la compassion, la clémence des chefs d'établissement, d'avoir quand même une petite réserve par rapport au recouvrement des frais de ces enfants-là pour que tous les enfants puissent étudier.
Vous le savez sûrement, la République démocratique du Congo a reçu ses premières doses de vaccin contre la Covid-19 mardi dernier. Avec ses premiers lots, c'est d'abord 20% de la population congolaise qui sera vaccinée. La vaccination débute le 12 mars et la priorité sera accordée au personnel de santé, les personnes présentant d'autres maladies à risque et les personnes âgées de plus de 55 ans. Au cours de l'émission Okapi Service, le directeur adjoint du programme élargi au vaccin, PEV, a insisté sur le fait que le vaccin ne tue pas, mais protège. On écoute Dr Aimé Chikomolo au téléphone de Jodine Kachama.
Il y a eu trop de rumeurs qui ont circulé à gauche à droite. Je pense qu'il est temps de sensibiliser la population. Ce vaccin ne tue pas, ce vaccin protège. Pour le moment, vu cette limite par rapport à la disponibilité de vaccins, nous avons regardé les provinces qui ont rapporté beaucoup de cas de Covid. Donc ce sont là les provinces qui sont à risque pour le moment. Et on s'est dit, étant donné que les quantités de vaccins sont limitées pour couvrir tout notre pays, mais l'objectif est de couvrir tous les pays, on s'est dit, commençons par les provinces les plus affectées. C'est notamment la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province de Haut-Katanga et la province du Nord Kivu. C'est des provinces qui ont déjà rapporté des milliers et des milliers de cas, et avec qui ont entraîné quelques décès, bien sûr, autour des 1 à 2% des létalités, donc des décès dus à la Covid.
Toujours concernant le vaccin, le docteur Mouvoudi du comité de riposte de la Covid-19 appelle la population à faire attention avec les rumeurs véhiculées à travers les réseaux sociaux en rapport avec le vaccin qui sera administré contre la pandémie. Il répond également aux questions de Jodine Kachama.
Je crois que la lutte contre la COVID-19 a commencé depuis l'année passée, bientôt un an. Et donc, si vous avez vu comment est-ce qu'on a commencé avec cette lutte, on a fait face justement à des mauvaises informations qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux. Donc, soyez prudents. N'acceptez pas tout ce qui passe par les réseaux sociaux parce que ce sont des réseaux sociaux. Il faut regarder, il faut poser la question aux experts, on va vous éclairer. Donc il ne s'agit pas ici de se mettre dans une position de dire « moi je ne peux pas accepter », comme on disait avant, on n'accepte pas que la maladie existe. Ici il s'agit de dire « on a un médicament, on a un produit, on a un vaccin qui est arrivé ». Grâce à l'OMS et grâce aussi à l'expertise pays traduite à travers le groupe technique consultatif, traduite à travers l'autorité de régulation qui donne l'autorisation de mettre un produit sur le marché. Tout ça, ça permet à ce que les pays prennent la décision.
Dans la province de Lomami, lancement ce mercredi à Cabinda de la campagne de distribution de masse des médicaments contre les maladies tropicales négligées. Ces maladies sont entre autres la trypanosomiase africaine, couramment appelée maladie de sommeil, ainsi que les vers intestinaux. D'après le chef des divisions provinciales de la santé, cette campagne de distribution cible les enfants en âge scolaire, dont l'âge varie entre 5 et 14 ans. Ceux de 5 ans recevront les médicaments contre l'oncocercose et la filariose. Tout enfant de 5 à 14 ans recevra les médicaments contre la schistosomiase. Écoutons à cet effet John Ngoy Mubui, chef de la division provinciale de la santé de l'OMAMI, au micro de nos confrères de la radio Veritas de Cabinda.
La lutte a pour objectif d'améliorer la santé, de soulager les souffrances. Les communautés sont en règle générale disposées à apporter un appui et à faire en sorte que le programme puisse s'inscrire dans la durée. Ainsi, les bénéfices attendus de la prise régulière des médicaments sont notamment éviter la morbidité courante qui s'associe invariablement aux maladies tropicales négligées et qui aboutit parfois à la mort des personnes. 2. Diminuer la survenue, l'ampleur, la gravité et les conséquences à long terme de la morbidité. En pratique, la chimioprévention consiste à délivrer seul ou en association des médicaments de qualité à toutes les personnes cibles, si possible à intervalles réguliers. Les médicaments qui sont utilisés sont donc efficaces et sûrs. Les traitements sont délivrés gratuitement.
Actualité internationale.
Au Bénin, la police républicaine a arrêté en début de soirée ce mercredi 3 mars à Porto Novo, Rekia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril du parti d'opposition Les Démocrates, selon son avocat. Rekia Madougou venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition, dont les dossiers ont été également rejetés, parmi lesquels Joël Aïvo. Un débat sur les politiques françaises au Sahel se tient ce jeudi 4 mars à l'Assemblée nationale, des discussions auxquelles assistera notamment la ministre des Armées, Florence Parly. Car la coopération Barkhane devrait être largement évoquée par les députés. Certains partis demandent par exemple que le maintien des missions militaires françaises à l'étranger soit désormais voté par le Parlement.
L'invité.
La République démocratique du Congo n'a pas assez vulgarisé la loi sur les hydrocarbures promulguée en 2015. Pourtant, cette loi donne au pays la possibilité d'intensifier les investissements dans ce secteur et accroître son budget national. Les organisations Sarois et Avocats sans frontières ont fait ce lundi l'évaluation de cette loi. Maître Georges Bokundu de Sarois RDC en parle dans cet entretien avec Daniel Tambizoni.
Maître Georges Bokundu, bonjour.
Bonjour.
Voulez-vous nous parler de cet atelier que vous organisez aujourd'hui ?
Sarois, en collaboration avec ACF, Avocats sans frontières, nous avons voulu analyser un peu ou faire une petite évaluation sur le secteur pétrolier. La première évaluation, c'est de dire la loi portant régime général des hydrocarbures qui avait été promulguée en 2015, quel est son état de lien actuel ? Quel est son état d'application ? Est-ce qu'elle est appliquée ? Vous savez, la loi de 2018 dans le secteur minier a été promulguée en 2018. Vous sentez qu'il y a une nouvelle loi. Et même si on ne l'applique pas à 100%, mais quelques innovations sont en train d'être réalisées sur le terrain, notamment aujourd'hui, les ETD ont des redevances minières. Les compagnies commencent à signer des cahiers de charges. On a créé les fonds miniers, même si en tant que société civile, nous sommes préoccupés par l'utilisation de ces fonds miniers. Donc, il y a eu des initiatives, des innovations qui sont appliquées. Quelles sont les innovations dans le secteur des hydrocarbures qui sont appliqués depuis 2015. Ça pose un problème.
Vous, quelle lecture, vous, personnellement, vous en faites ?
La lecture est mitigée parce qu'on suppose qu'il y a quelque chose dans l'applicabilité de cette loi ou une faiblesse de la part de l'État qui doit appliquer. Parce que, je vous dis, lorsque la loi est sortie, la société civile, nous, nous avons pris l'initiative de faire la vulgarisation de la loi. On a vu une seule fois le ministère des Hydrocarbures lancer la vulgarisation au fleuve Congo et c'était fini. Donc on n'a pas vulgarisé la loi. On n'a pas mis la loi à la disposition du public, de tous les opérateurs. Il y a un moment donné où tous les acteurs devraient se réunir pour évaluer. Nous avons un secteur pétrolier qui peut bien augmenter les recettes. On ne va pas se contenter du secteur minier. Regardez, nous avons 25 000 barils par jour pour 400 millions à peu près de dollars par an, avec 25 000. Pendant que nous avons un grand espace avec trois bassins sédimentaires. Si l'État peut aussi investir dans ce secteur-là pour connaître, même pour un seul bloc, deux blocs, ses propres jugements, ses propres réserves. Je vous dis, on peut bien discuter avec les investisseurs et augmenter la capacité de production. Mettez-vous en tête, lorsque cette production-là augmente, de, par exemple, même arriver à 250 000 barils par jour, ou 150 000, on multiplie seulement fois 10. Et tout calcul fait, sans compter les problèmes techniques. Mais je vous dis, le secteur pétrolier peut dépasser de loin le secteur minier et même augmenter fois 2 le budget de la République. Le Congo en face produit 300 000 barils par jour. Son budget, c'est à 7 milliards de dollars qui provient du secteur des hydrocarbures. Ne parlons pas de l'Angola. Mais nous avons cette possibilité. C'est vrai, le Congo, la RDC, c'est un pays qui était plus à tendance minière. Mais il faut maintenant changer. Vous voulez l'argent dans votre cœur. Pendant qu'on n'a pas encore arrêté la production des hydrocarbures, c'est le moment d'investir dans ce secteur-là pour maximiser les recettes. On a beaucoup de problèmes de paix dans les pays. La pauvreté est extrême. Nous n'allons pas nous contenter dans le secteur minier où il y a beaucoup de problèmes déjà de fraude. Le secteur des hydrocarbures, on peut tracer. On peut facilement découvrir certains problèmes et réguler. Mais lorsqu'on les néglige, peut-être parce qu'on n'est pas intéressé, mais pendant ce temps, on cherche l'argent. Je pense qu'il y a un problème.
Mais peut-être on n'est pas intéressé parce que c'est des richesses qui sont partagées avec les pays voisins et les voisins sont déjà très avancés dans l'exploitation.
Non, quand les richesses sont partagées avec les voisins et vous sentez que vous voyez que les voisins sont tentés de tirer le minimum, c'est-à-dire qu'on vient vous arracher tout ce qui est dans votre maison, vous ne voulez pas profiter de ce qui est dans votre maison. Vous avez un champ, les voisins ont un champ, il y a quelque chose, une coïncidence où vous vous recroisez, vous voulez laisser aux voisins. Donc les voisins continuent à s'enrichir. Mais ça, c'est une faiblesse. Et puis, on ne dit pas que tout est toujours sur les frontières. Non, tout n'est pas sur les frontières. Pourquoi on a la cuvette centrale? Pourquoi on a les Graben Albertino? Pourquoi on a même Upemba qui est dans la République entièrement? On ne peut pas investir là-bas. Est-ce qu'il faut seulement... Mais là où les voisins se trouvent avec nous, est-ce que les voisins ont refusé? Pourquoi l'Ouganda a développé son exploration et être aussi parmi les pays qui doit être producteurs de producteurs? L'Ouganda peut faire ça. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est complexe.
Et les résolutions de cet atelier, vous les adressez à qui?
Nous allons les adresser au gouvernement. Mais la finalité, c'est que ça, c'est un atelier restreint. Nous sommes en train de projeter un grand atelier, une grande conférence, comme on le fait dans les secteurs miniers. Vous verrez que dans les secteurs miniers, la conférence minière, nous faisons aussi des Indaba mining. Mais on ne le fait pas dans les secteurs pétroliers. C'est la première fois qu'on va le faire et impliquer aussi le gouvernement, les parlementaires et les compagnies qui sont dans les secteurs.
Maître Georges, merci.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.